Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat. Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.
Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 8e émission du cycle sur les nouvelles solutions financières pour les territoires. Nous allons parler aujourd'hui de l'empreinte financière territoriale des banques. Nous allons bien sûr définir ce terme d'empreinte. Et nous avons deux invités, Florent Levavasseur du cabinet Utopie qu'il va présenter et Arnaud Gouret d'une banque, justement une banque du Finistère qu'il va présenter également. Donc je vous donne la parole pour vous présenter un tout petit peu plus complètement. Et ensuite, Florent, vous pourrez enchaîner pour définir un peu cette question d'empreinte territoriale de la banque et développer ce thème. Présentez-vous
merci. Si
vous voulez, Florent.
Très bien, merci beaucoup André. Du coup, je suis Florent Levavasseur, directeur conseil au sein de l'agence Utopie, l'agence pionnière sur les stratégies de déploiement des stratégies de développement durable créées il y a 27 ans. On est aussi un think tank, donc on défriche les sujets de la RSE depuis quelques décennies pour être de plus en plus ambitieux sur ces questions. Et par ailleurs, j'ai aussi une casquette pédagogique depuis un an. Je suis responsable d'un programme de MBA sur la communication RSE et le développement durable au sein de l'EFAP, une école de communication.
Très bien. Arnaud ?
Oui, bonjour. Merci André. Arnaud Gouret, donc je suis le directeur des filières mer et tourisme du Crédit Agricole du Finistère. Le Crédit Agricole du Finistère, une vieille maison de 110 ans qui intervient sur un seul territoire et qui représente un collectif d'environ 1300 collaborateurs et de 600 élus au service du territoire.
Très bien, merci. Alors, Florent, qu'est-ce que c'est que l'empreinte territoriale des banques et qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet ?
Alors, l'empreinte territoriale des banques, on l'a travaillé au sein du cabinet Utopie depuis une petite dizaine d'années. Notre objectif, c'était de comprendre les effets ricochets des euros dans un territoire, c'est-à-dire de bien comprendre les effets d'une activité bancaire, en l'occurrence, pour un territoire donné. Donc on a, grâce à notre outil que je vais vous expliquer tout à l'heure, on a décortiqué les flux monétaires de la banque, les flux de fonctionnement de la banque, comme toute entreprise, la banque a des salariés, elle doit acheter des ordinateurs, etc. Donc ces flux de fonctionnement. Et on a aussi suivi dans l'économie les flux de son activité bancaire principale, qui est de mettre à disposition des prêts à ses clients et voire d'investir dans des participations minoritaires souvent dans des entreprises plus ou moins locales. Donc on a suivi ces flux financiers donc en les collectant auprès de la banque, puis ensuite en appliquant notre méthodologie d'empreinte économique. Donc je vous explique ce qu'est une empreinte économique maintenant. Il s'agit en fait de quantifier les effets directs, indirects et induits d'un choc monétaire. Donc là, on l'a appliqué, on va le décrire aujourd'hui sur l'empreinte bancaire, mais ça s'applique évidemment à un événement, à une entreprise, à une filière. Donc on peut comme ça photographier l'empreinte économique de toute activité pour tout territoire donné. Et c'est ce qui nous
sachant,
a animé.
Sachant qu'évidemment, la banque est un acteur particulier puisqu'elle est à la fois une entreprise et en même temps elle traite d'un thème particulier qui est celui de l'argent qui nous intéresse particulièrement dans cette émission et dans ce cycle d'émissions.
Effectivement, et c'est pour ça j'ai mentionné une double empreinte en introduction, une empreinte de fonctionnement de la banque comme entreprise et une empreinte de financeur. Et donc le but d'une empreinte économique, c'est d'essayer au maximum de reproduire ce qui se passe dans l'économie avec ces injections de flux. Donc pour les reproduire, on a recours le plus souvent à des outils les plus profonds étant, les plus robustes étant des outils dits sur les tables entrée-sortie. Et comme celui d'Utopie s'appelle Local Footprint, on l'a développé depuis une petite dizaine d'années en essayant de reproduire de secteur en secteur les conséquences du ruissellement, des effets ricochets des euros dans l'économie locale. Donc ces tables entrée-sortie, je ne vais peut-être pas les décrire, c'est ce qui permet globalement de lier un secteur à un autre en liant un euro de production avec les achats d'une entreprise, sa masse salariale et sa fiscalité versée. Donc en gros, on a des tables de, on superpose des tables de coefficients techniques qui lient les secteurs entre eux et les territoires entre eux, avec évidemment en s'appuyant sur des données de l'Open Data en France, de l'Open Data de l'INSEE, en s'appuyant aussi sur des bases nord-américaines qu'on a été chercher dans les dernières années pour gagner en précision. Donc on est maintenant capable de modéliser l'économie sur 380 secteurs, sur tout type de territoire. En l'occurrence, pour le Finistère, on a pu quantifier l'empreinte socio-économique de la caisse régionale du Finistère, comme une trentaine d'autres caisses régionales dans le groupe Crédit Agricole, comme dans d'autres banques. Et les résultats sont intéressants parce qu'ils nous permettent de mieux comprendre les fuites économiques qui sortent d'un département ou d'une région quand une banque va injecter de l'argent.
Donc là, on arrive à des éléments qui peuvent être source d'inspiration pour le développement du territoire.
Effectivement, c'est là où l'empreinte économique prend son sens. Alors, il a deux intérêts majeurs. L'empreinte, c'est d'avoir une photo, déjà de comprendre ce qui se passe. Quand on a des flux monétaires directs, l'outil et l'empreinte va quantifier les impacts indirects et induits, indirects dans la chaîne de fournisseurs et induits par la consommation des ménages et la fiscalité versée. On va avoir des effets ricochets de manière induite. Et donc, en prenant cette photographie, déjà on comprend, ça donne à voir ce qui se passe au-delà des effets directs qui sont habituellement connus. Le deuxième intérêt, une fois qu'on a ces résultats, ça nous donne des leviers d'action pour s'améliorer, comme vous le dites André. On va aller mieux comprendre où agir, dans quel secteur, et la banque va potentiellement vouloir mettre à jour d'éventuelles offres ou d'agir au niveau marketing pour créer des produits qui vont être à destination plus ciblée de l'économie locale. Donc on a un terrain de jeu
assez fascinant. Qui tiennent à la consommation, aux consommations directes de l'entreprise, et puis des effets indirects, par exemple, si ces salariés habitent et consomment sur le territoire, ils vont réinjecter leur salaire dans le circuit, et cette boucle, elle peut continuer de manière indéfinie d'ailleurs, et à chaque fois, elle nourrit, elle alimente, elle soutient le développement du territoire. On peut dire ça.
C'est ça. Les flux monétaires dont je parlais au départ, hein, les employés qui touchent un salaire de la banque vont consommer là où ils habitent et donc vont eux-mêmes soutenir de manière induite des restaurateurs, une caissière au supermarché, etc., etc. En versant des taxes locales, ils vont soutenir les administrations publiques de manière induite. Donc on aura une empreinte économique de fonctionnement de la banque qui va être plus ou moins locale. L'autre côté de l'empreinte bancaire, ce qui est intéressant, c'est sa politique de financement. Parce que souvent, c'est quasiment un rapport de 1 à 10 hein, entre les flux de fonctionnement de la banque et puis les flux de création monétaire. Donc, il est intéressant pour un financeur d'orienter ses financements pour soutenir l'économie locale. Mais dans ce qui nous anime à Utopie et ce qui doit constituer les priorités majeures de nos stratégies, c'est soutenir l'économie d'un point de vue durable et responsable pour faire la transition écologique, pour le plus possible orienter les entreprises dans des marchés qui soient porteurs demain. Donc l'empreinte économique, elle sert à ça, à voir quels secteurs sont soutenus et où. Donc par exemple, pour le Crédit Agricole Finistère, on a évalué qu'il y avait à peu près 39 000 emplois soutenus par la Caisse régionale en France, dont 15 000 dans le Finistère. Donc ça représente à peu près 4% de l'emploi local. Donc on a pu quantifier avec nos modélisations bancaires la proportion des emplois que soutient la caisse régionale dans son département. C'était entre guillemets des nouveaux chiffres pour la banque pour qu'elle puisse comprendre son poids et agir dessus. Donc ça c'est la photographie.
Et on voit bien que la banque qui intervient dans la gestion de l'épargne des habitants peut effectivement orienter cette épargne vers le territoire avec des effets indirects, comme vous disiez tout à l'heure, ou orienter cette épargne vers l'extérieur, vers des objets d'ailleurs qu'il est difficile d'identifier, et là sans effet positif, direct ou indirect pour le territoire.
Effectivement, et tout l'enjeu, c'est de pour qu'on puisse arriver à ces chiffres, hein, plus autour de 3 milliards d'euros aussi de contribution au PIB dans l'économie française. On doit pouvoir cartographier majoritairement les prêts bancaires et le soutien à la trésorerie des entreprises. Donc on analyse fine sur des dizaines de secteurs et on doit savoir Où est le premier choc monétaire dans l'économie? Est-ce que c'est un prêt qui est financé dans une entreprise de boulangerie dans le Finistère ou si c'est plutôt une entreprise à Lille? Est-ce que c'est financé le secteur boulanger ou plutôt le secteur automobile? Est-ce que c'est un achat neuf ou un achat d'occasion? Donc, en fonction de la catégorie et la spécificité du prêt, on va avoir des retombées économiques qui vont différer, qui vont être différentes entre secteurs et entre territoires. Et
Alors peut-être on va donner la parole maintenant à Arnaud pour l'illustration finistérienne de cette question d'empreinte territoriale.
Oui, quelques chiffres peut-être pour démarrer, pour dresser un peu aussi le panorama de la Caisse du Finistère. La Caisse du Finistère, c'est 11 milliards d'euros d'encours de crédit. Donc vous voyez la taille à peu près qui représente la taille du total bilan. Et sur une année 2020, c'est 2 milliards de réalisations de crédit, dont 1 milliard 3 qui vont être consacrés à l'habitat et donc le reste, près 800 milliards d'euros consacrés à l'économie du territoire. Et vous voyez qu'en 5 ans, finalement, notre stock de crédit est renouvelé avec une production de 2 milliards par an. Mais au-delà de ces chiffres qui peuvent paraître impressionnants, c'est aussi évidemment accompagner un territoire et des Finistériens puisque un Finistérien sur deux est client du Crédit Agricole du Finistère, ce qui nous positionne comme une banque leader sur le territoire. Et la question s'est posée aussi de dire quel est le retour au territoire que l'on peut faire de la richesse créée par la caisse régionale. Et depuis 5 ans, c'est 5 millions d'euros par an qui, à l'issue de chaque année de résultat, étaient réaffectés à ce qu'on a appelé une enveloppe engagement territoire. Et dans ces 5 millions d'euros, 25 millions cumulés. On a pu orienter nos investissements soit vers une structure de capital investissement qui se dénommait Force 29 et qui permettait de prendre des participations dans des entreprises en haut bilan, donc de créer de la richesse sur le territoire sur des entreprises qui avaient leur siège social ou une implantation en lien avec le Finistère. On a ensuite accompagné des projets plus d'infrastructures sur le territoire comme des infrastructures aéroportuaires, des syndicats de développement d'énergie renouvelable, mais aussi des projets qui sont des projets plus spécifiques comme un village Baïséa qui est un village d'innovation et d'accélération des start-up sur Brest et dans lequel on a investi non seulement en capital mais aussi en immobilier sur le territoire puisque l'installation de ce site 600 mètres carrés dans le plateau des Capucins, c'est une enveloppe d'investissement de 2,5 millions d'euros qui donne du travail aux entreprises de bâtiments locales. Et on a aussi porté un projet qui s'appelle Finistère Mervent sur Port-la-Forêt autour des industries nautiques et de l'accélération sur les industries nautiques. Et là, c'est pareil, c'est un bâtiment qui, en coût de construction, représente 2,5 millions à 3 millions d'euros, donc un retour direct au territoire aussi. Et pareil, un projet qui, en capital, représente à peu près 2 millions d'enveloppes de capital d'investissement.
Eh bien, au-delà de cette série d'exemples, parce que c'est évidemment des exemples qui sont positifs pour le développement du territoire, est-ce que vous avez, vous, une sorte de mesure, d'indicateur sur ce qu'on peut appeler la fuite d'épargne du territoire? Et est-ce que vous avez une évolution positive de votre activité par rapport à cette question de fuite?
Alors, sur ces indicateurs, on les suit pas particulièrement, ces indicateurs de fuite d'épargne. Ce qu'on regarde, c'est plutôt les entrants, les sortants au niveau de notre clientèle finistérienne. Et on est bien conscient que le territoire est composé de globe-trotteurs au niveau de la clientèle et que beaucoup de finistériens, quittent ce territoire-là pour aller tout simplement chercher une activité professionnelle ou vivre autre chose en dehors du territoire. Notre solde reste positif au niveau des entrées-sorties, mais il est moins positif évidemment que d'autres territoires. À nous de créer cette attractivité du territoire finistérien pour justement augmenter l'apport de nouveaux actifs ou même de nouveaux tout simplement citoyens finistériens ou finistériens sur le territoire. Ce qu'on observe quand même, c'est les tendances des dernières années et particulièrement de la dernière année, c'est l'arrivée de profils et de porteurs de projets sur notre territoire qui n'étaient pas les profils habituels et qui sont extra, on va dire, qui n'ont pas de liens familiaux avec le Finistère.
D'accord. Voilà. Alors, sur la fuite, plus précisément sur la fuite d'épargne, je crois qu'on a On a quelques difficultés à avoir des chiffres sur cette suite d'épargne à l'échelle des territoires. Mais au niveau national, je crois qu'on a un indicateur, Florent, un pourcentage de fuite d'épargne vers l'extérieur qui a tendance d'ailleurs à croître.
Oui, alors on a, selon l'Observatoire de la Banque de France, on a, il publie un chiffre qui est intéressant, qui est la fuite de l'épargne des ménages vers le reste du monde, Europe et monde, qui est de 44%. Donc 44% de l'épargne des ménages a in fine fuite à l'étranger, versus donc 56% qui profitent à l'économie française. Le 44% de fuite, il était de 29% fin 2000. Donc avant l'euro, il était de 29%. Donc on a une accélération avec l'euro et depuis 20 ans. Par contre, on est sûrement sur une stagnation de ces chiffres, on est en train de l'observer. Il faut pas être contre, entre guillemets, cette fuite vers l'Union européenne, puisque c'est une décision d'avoir une monnaie unique. Donc c'est logique d'avoir une fuite vers d'autres pays et des placements quelque part financiers qui vont se diversifier dans des portefeuilles en sectoriel et par pays. Mais ce qui est plus passionnant dans l'analyse de ces chiffres, c'est plutôt de voir que le local rassemble les clés du développement durable. C'est vraiment, on appelle souvent ça la relance par le local, surtout après la crise sanitaire qu'on vit. C'est comment les territoires se saisissent de ces nouvelles opportunités économiques. Donc on doit quelque part nous-mêmes forcer à ramener des euros proches du lieu de consommation des personnes.
Cette fuite, ça correspond quand même à une perte pour les territoires, puisqu'il y a des projets qui ont du mal à être financés, puisque si cette épargne, elle s'engage sur le territoire, elle va produire des effets directs et des effets indirects. Donc il y a un intérêt pour les territoires à contribuer à l'orientation de l'épargne vers des projets locaux. D'ailleurs, les épargnants le souhaitent de plus en plus. Ils ont envie de circuits courts et avec le financement participatif, comme on l'a vu déjà, ils ont des outils pour financer des projets à proximité.
Donc, clairement. Ouais.
Il y a une responsabilité qui n'est pas seulement celle des banques, mais qui est celle de l'ensemble des acteurs du territoire à essayer de valoriser localement l'épargne locale.
Et avoir des modèles économiques qui soient les plus locaux possibles, c'est-à-dire au rang 1, au rang 2, au rang 3, etc. C'est-à-dire qu'il faut essayer de soutenir des entrepreneurs de territoire qui imaginent des solutions avec du sourcing local, avec du financement qui soit plus proche des territoires, etc. Donc c'est aussi tout un changement de paradigme qu'il faut avoir en tête pour tendre vers un fonctionnement plus durable de nos sociétés.
Ça concerne évidemment cette responsabilité, les élus et les responsables territoriaux, les banques, les habitants, les entrepreneurs, etc. Alors, on arrive au terme de notre émission, malheureusement. Si vous voulez, je vous laisse évidemment une phrase ou deux de conclusion chacun par rapport à ce sujet d'orientation locale de l'épargne locale.
Alors, peut-être moi, si je pouvais préciser effectivement que quand on a une banque sur un seul département, évidemment, notre destin, il est lié à la santé économique du département. Bien donc sûr. La caisse régionale, effectivement, croit beaucoup dans cette notion de création de liens entre les acteurs du département. Et nos actions, quelles qu'elles soient, sont guidées par cette proximité avec les acteurs économiques du territoire. Et j'en voudrais pour preuve les modèles publics-privés qu'on pousse, notamment en recréant des sociétés coopératives d'intérêt collectif, comme on a pu le faire sur le projet Finistère-Banque que j'évoquais avec vous, et en étant aussi grand mécène de pôles d'excellence sur le territoire. Et pour preuve, je citerai notamment la station biologique de Roscoff, qui est une pépite et un pôle d'excellence sur notre territoire.
Très bien. Florent ?
En conclusion, on a les thèmes marquants à venir, c'est vraiment la résilience productive et avoir des territoires qui soient les plus diversifiés possibles. Donc l'effet d'une banque, c'est aussi d'aller chercher des complémentarités, de la diversité dans le tissu productif local. Donc c'est aussi une frontière très intéressante qui va permettre de nourrir et de renforcer cette empreinte économique locale.
Voilà. Donc il y a effectivement l'activation des circuits financiers locaux, l'activation des échanges locaux aussi de façon générale qui permet ces refinancements et ces réorientations financières. Et on se souvient aussi que dans la conception des investissements, c'était notre première émission, selon que l'on construise un investissement avec des acteurs locaux ou avec des acteurs et des ressources extérieures, on peut avoir un retour à long terme pour le territoire qui variera d'un facteur qui peut aller jusqu'à 8. C'est une étude de l'Université de Cassel qui montre bien l'intérêt de cette préoccupation d'empreinte et de territorialisation financière. Donc, nous avons une question complémentaire en cette fin d'émission. Si on se place du point de vue d'un développeur territorial, d'un élu, est-ce que pour lui, il est possible de s'adresser au milieu financier, au milieu bancaire, avec cet objectif d'orientation des ressources et des flux financiers vers les projets et les investissements du territoire? Et même plus largement, est-ce qu'on ne peut pas imaginer l'idée d'un plan financier local, comme il existe des plans alimentaires territoriaux, où on construirait avec les banquiers, avec les responsables d'investissement, pourquoi pas avec quelques épargnants, une réflexion et une action sur cette question de la finance du territoire?
Pour répondre à la première question, un responsable territorial, oui, il a vraiment complètement intérêt à rejoindre et être en partenariat avec les acteurs financiers locaux pour faciliter l'émergence des projets à financer, notamment dans les nouvelles économies et assurer la transition écologique des territoires. Donc la logique partenariale, elle doit être clé. Et on se rend compte, notamment à travers les missions avec Utopie, nos clients de tous les secteurs d'activité, que les projets d'innovation positive sont vraiment porteuses de sens. Quand je parle d'innovation positive, je parle de concevoir des offres et des produits et des services de manière responsable, et en l'occurrence ici à destination du local. Un acteur financier pourrait imaginer concevoir des offres encore plus portées vers le territoire, et notamment financer l'économie de fonctionnalité, l'économie collaborative, la transition, et vraiment replacer le client au centre de ses process, client et le territoire. Donc ça, c'est la première réponse, un grand oui. Les acteurs financiers sont prêts à répondre davantage aux besoins du territoire et à l'émergence de nouvelles solutions. La deuxième question est intéressante sur les plans alimentaires territoriaux. On voit que ça fait écho à une belle démarche partenariale sur le territoire. On peut tout à fait l'imaginer sur d'un point de vue financier. Des banques coopératives historiques sont déjà dans cette démarche sur de multiples projets, notamment la filière mère avec le CA Finistère, notamment, qui est un bel exemple de partenariat en profondeur pour redynamiser une filière. On peut imaginer ces plans sur différents secteurs d'activité et aussi en fonction des spécificités des territoires. Typiquement en montagne, il y aura peut-être des plans plus spécifiques sur le sujet montagne, près des côtes plutôt sur la mer, etc. Donc il peut y avoir aussi des spécificités selon les territoires.
Très bien. Ben, merci beaucoup tous les deux et à très bientôt.
Merci. Merci.
Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.